أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرف رز سيران الإسلام. لوانجا الله كي par sa grâce, par son intelligence, on s'est retrouvé une fois encore autour de son livre béni, dans cette mosquée bénie et dans ce mois béni de Ramadan. Dans cette sourate bénie, la sourate Baqara, qu'on est sur le 83e verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset précédent, il nous a expliqué, il nous a donné l'explication sur la psychologie judéo-chrétienne, ou en particulier, donc en général, les enfants d'Israël qui se croient les enfants d'Allah ou les bien-aimés d'Allah et les choyés qui se croient ne pas être châtiés le jour de la résurrection, même s'ils feront face au châtiment, ce n'est qu'un petit séjour qu'on peut compter au bout des doigts. Ils se croient qu'ils sont les meilleurs. Tout celui qui vit sur cette terre n'est que leur serviteur, qu'il accepte ou pas, que nous acceptons ou pas, pour les Juifs, nous sommes des serviteurs assujettis à eux. C'est ça leur idéologie, c'est ce qu'ils en pensent et c'est sur ça qu'ils se battent. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient n'est rien que la traduction pratique de cette théorie et de cette idéologie de leurs ancêtres qu'ils ont hérité, et aussi leurs fils vont hériter jusqu'à la dernière victoire qu'Allah va donner aux musulmans parmi les grands signes, les 10 grands signes de la résurrection, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé dans des hadiths authentiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que les enfants d'Israël ou les Juifs et les chrétiens agissent d'une telle manière, il essaie de les recadrer, de les rappeler à l'ordre, de les rappeler à la raison. Qui sait qu'ils sont en train de chanter, c'est pas vrai. Et s'ils ont des arguments, des preuves convaincantes, des preuves rationnelles pour défendre leurs affirmations gratuites, ils n'ont qu'à avancer ces preuves. Mais à chaque fois, ils restaient incapables de fournir un argumentaire, de fournir des preuves pour défendre leur théorie ou pour défendre leur thèse selon laquelle ils sont les choyés et les distingués élus d'Allah, et chacun doit se soumettre à leur volonté et à leur service. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses enfants d'Israël, en particulier après l'engagement général que tout un chacun a pris depuis la création de notre père Adam. Et ici, c'est un engagement qui est relatif aux enfants d'Israël. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. الله سبحانه وتعالى nous confirme dans ce verset, le 83e verset de cette sourate 2 ou de ce chapitre de Baqara. Certes, on a pris un engagement de la part des enfants d'Israël, à savoir de ne pas adorer aucune divinité en dehors d'Allah et d'être obéissant vis-à-vis des parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, d'être bienfaisant, d'être obéissant vis-à-vis de nos parents, de leurs parents, وَذِي الْقُرْبَى, et aussi de faire la bienfaisance, de la charité, de la tolérance, d'entraide vis-à-vis des الْقُرْبَى, les familles proches, les frères, les sœurs, وَلِيَتَامَى, les orphelins, وَالْمَسَاكِينَ, les bijounés, les personnes qui sont en nécessité, qui sont exposées à la précarité, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et quand vous discutez, quand vous parlez, quand vous adressez aux gens, il faut les adresser avec un ton souple, avec tendresse, avec respect, sans les haïr, sans cracher sur eux, sans les faire gronder, etc. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, et accomplissez bien la salat, وَآتُوا الزَّكَاةَ, et s'acquitter de la zakat, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ. Après toute cette liste des engagements qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, enfin, ils nous ont remis en cause. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils n'ont pas honoré leur engagement vis-à-vis d'Allah. Illa qalilan minkum, sauf quelques têtes, sauf quelques-uns parmi vous, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël. Wa antum mu'ridun, et vous avez tourné le dos et vous avez boycotté carrément cet engagement que vous avez pris auprès d'Allah et aussi devant votre prophète Moussa alayhi salam. Donc ici c'est une partie des engagements, et le premier engagement c'est la cause de notre existence qui est l'adoration d'Allah. Donc tout un chacun de nous, il a pris ses engagements au moment où il était dans le monde atomique. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam dans la sourate 7, sourate Araf, wa iza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Donc ça c'est un engagement que tout un chacun a pris, et maintenant en particulier Allah subhanahu wa ta'ala a pris cet engagement de la part des enfants d'Israël après avoir ennoyé Pharaon, détruit l'armée de Pharaon dans la mer, et Allah a sauvé Moussa alayhi salam et les Bani Israël, et il a pris cet engagement. Et Moussa alayhi salam a choisi 70 parmi les enfants d'Israël, 70 hommes pour aller rencontrer le Seigneur là où Allah a donné le rendez-vous à Moïse au mont Sinaï. 70 Israéliens avec Moussa. Et Allah SWT a pris cet engagement. Mais avant l'arrivée de Moussa, il a confié les autres à son frère, donc prophète Haroun. Mais avant son retour, ils se sont retournés de l'idolâtrie en adorant un veau. Voyez-vous, un taureau. Donc, c'est ça le comportement de ces gens. C'est pourquoi c'est Allah seul qui connaît leur psychologie et leur idéologie que quiconque. Et personne ne peut te décrire qui est juif, qui est Banu Israël, juif et chrétien en dehors d'Allah. Tout celui qui va te donner une autre explication, donc il ne peut pas te donner une idée claire, plus que celui qui les a créés, celui qui les a reçus, qui a suscité des envoyés parmi eux. Et c'est ce comportement maladroit qui se comportait vis-à-vis de leur Seigneur, un, vis-à-vis de leur prophète, deux, et vis-à-vis des autres prophètes qui ne sont pas d'eux, et vis-à-vis maintenant des autres communautés. C'est comme ça, leur comportement, toujours, il est autrement. Et ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est trois agendas internationaux qui se confrontent. C'est trois intérêts. L'un menace les deux ou les deux menacent un. Vous comprenez? Les trois-là qui se confrontent maintenant, chacun a son agenda spécial pour le monde en général et pour l'islam en particulier. C'est un agenda politico-idéologique. C'est un agenda économique couplé à l'idéologie. Rien que ça. Quand vous prenez les Juifs d'Israël, c'est un vieux rêve et ils sont là pour le réaliser, pour le mettre en œuvre, pour réaliser ce vieux rêve dont Allah SWT nous a raconté ici dans le Coran, dans plusieurs versets. Et ils sont prêts pour défendre à tout prix les Américains. C'est un agenda, c'est un vieux rêve aussi. L'Iran, c'est un agenda, c'est un vieux rêve aussi. Les trois-là, chacun ne peut pas accepter de se soumettre à l'autre, quel qu'en soit le prix. Le secret dans ça, quand vous revenez dans l'histoire des enfants d'Israël dont Allah SWT a commencé à nous donner de la sourate Baqara et qui va continuer dans le Coran, que les enfants d'Israël, si vous vous rappelez, dans la sourate 5, sourate Maïda, le verset 20 même, jusqu'au verset 27, du 20e au 27e verset de la sourate Maïda, et vous revenez dans la sourate Baqara, les versets qu'on a essayé de voir antérieurement, et il y a l'autre verset à venir, le 246e verset jusqu'au 251e verset. Vous comprenez? Ces versets-là nous traitent exactement ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et ce qui s'est passé avant cette date. Les enfants d'Israël, après avoir été sauvés par Moussa alayhi salam du joug pharaonique qui les a esclavagisés, qui les a égorgés, qui les a maltraités de n'importe quel traitement ignoble qu'on connaisse. Yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, on a vu quelques passages. Et qui sont les familles ou les fils des 12 enfants du prophète Yaqub, c'est-à-dire Youssouf et ses 11 frères. Les 12 enfants là de Youssouf, de Jacob, lorsqu'ils ont siégé l'Égypte, après que Youssouf les a, rapatriés donc de Canaan, après avoir, il a eu donc le poste de ministre de l'agriculture ou de l'économie donc en Égypte. Et tout à l'heure, avant la prière, vous avez su l'histoire, les leçons tirées de la sourate Youssouf. Donc, ces 12 frères-là de Youssouf, 11 frères plus Youssouf, les 12, c'est eux qui ont peuplé l'Égypte. Et maintenant, lorsque les Coptes, donc du côté pharaon, ils ont constaté qu'ils veulent dominer l'Égypte et que le pharaon a vu dans son songe, dans le rêve, que son pouvoir sera renversé par l'un de ces Israéliens, il a commencé maintenant à prendre des mesures pharaoniques sévères, inhumaines, vis-à-vis des enfants d'Israël, c'est-à-dire les garçons, tout nouveau-nés garçons, on va l'égorger. Et jusqu'à ce qu'Allah soit là à montrer son pouvoir au pharaon, que c'est lui-même qui va élever Moussa chez lui. Et c'est celui qui sera la cause du renversement de son pouvoir. Pour Allah lui montrer que c'est lui qui gère, c'est lui qui détient le pouvoir et c'est lui qui le donne à qui il veut et il l'arrache, il destitue qui il veut du pouvoir. Donc, voilà. On connaît donc les histoires jusqu'à ce que Allah a sauvé les enfants d'Israël avec Moïse, alayhi salam. Maintenant, une fois sauvés, c'est ici que ça va commencer. Ils ont commencé aussi à maltraiter Moïse et prophète Haroun. Et maintenant, Allah SWT, de la sourate 5, du 20e au 27e verset, il nous a raconté « Wa idh qala Musa li qawmihi ya qawmi zkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin ya qawmi dukul al-ard al-muqaddasah allati kataba Allahu lakum wa la tartuddu 'ala aqabikum fa tanqalibu khasirin qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha ma damu hatta yakhruju minha. قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهم يدخلوا عليهم فاذا دخلتم فانكم غالبون الا فتوكلوا ان كنتم صادقين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون قال فانها قال ربي لا اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. Ces passages, à résumer, Allah SWT nous montre, Moïse a rappelé aux enfants d'Israël, après avoir été sauvés des jougs pharaoniques, rappelez du bienfait d'Allah sur vous, ô les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Donc, avant qu'ils se scindent en deux, en Juifs et en chrétiens, c'est des enfants d'Israël. C'est pourquoi ici dans le Coran, Allah parle des enfants d'Israël dans la sourate Baqara, enfants d'Israël, enfants d'Israël. Quand on va dans les autres sourates, au moment où ils se sont divergés, maintenant, ils ont créé, ils ont fondé leur religion, donc on les appelle les Juifs et les chrétiens. Et les chrétiens, mais au primo, c'est des enfants d'Israël. Maintenant, il a dit, rappelez le bienfait d'Allah et la grâce d'Allah envers vous. Soyez reconnaissants, car Allah a fait susciter beaucoup, beaucoup, ou l'écrasante majorité des prophètes et messagers, c'est de la part d'eux, c'est de leur famille. Et il a fait de vous des empereurs. Il vous a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres peuples qui vous ont devancé. Ô mon peuple, dit Moïse, il faut rentrer dans la terre promise dont Allah vous a promis. Ne retournez pas sur vos pas. Il faut exécuter ce qu'Allah vous a ordonné. Ils ont dit non, niet, ya Moussa nefiha comme Jabbarine. Il y a des peuples, donc des intégristes. On ne peut pas y rentrer jusqu'à ce qu'ils sortent. Moussa alayhi salam les a suppliés d'y accéder. Ils ont refusé jusqu'à ce qu'ils ont dit, ils ont répondu sévèrement à Moussa alayhi salam. Fa inna landadu kulaha abda madam fuha. À jamais, on ne va pas y rentrer jusqu'à ce qu'ils sortent. Sinon, fazahab anta wa rabbuka faqatila. Inna hauna qaidun. Si tu es pressé, il faut aller, toi et ton Seigneur, il faut aller combattre. Et nous, on est là, on ne va pas bouger. Regardez de la manière de l'indiscipline qu'ils ont répondu à Moïse, à Moussa alayhi salam et son Seigneur. Et c'est pourquoi maintenant Allah a dit « فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ » Allah a interdit cette terre promise à eux. Et ils ont passé 40 ans de l'errance en train de se tergiverser dans la terre, dans le monde, et en train d'être pourchassés, persécutés, opprimés par les autres peuples. Et vous vous rappelez donc que l'Empire babylonien, donc, les captivités donc, des Juifs, ils étaient en captivité à maintes reprises, au moins trois grandes captivités des Juifs, de 598 à 587 et à 538, tout ça là avant Jésus-Christ. Ils ont été persécutés et pourchassés parce que Allah, il a pris l'engagement, il va les corriger vis-à-vis de ce comportement indigne par rapport à Allah et à ses messagers. Et wa ista'adhan rabbuka liyab'athana ilayhim liqiyam man yasumuhum su'al azab. Dans la sourate Ibrahim, il a dit Dieu a pris l'engagement qu'il va les envoyer celui qui va les persécuter et il va les châtier jusqu'au jour de la résurrection. Ils vont vivre de temps à autre, ces souffrances-là. Vous comprenez? Maintenant, fatigué de l'errance, maintenant, après le décès de Moussa, maintenant, il y a le prophète Yusha. Le prophète Yusha qui a été envoyé après Moïse, parmi les prophètes qui ont relevé Moïse, il y a le prophète Yusha Abin Nun. Et Yusha Abin Nun, ça, c'est celui, le prophète, là, qui un jour, il est dans le combat avec les ennemis d'Allah. Le soleil s'apprête à coucher. Il a imploré Allah de lui garder le soleil jusqu'à ce qu'il finisse avec les ennemis d'Allah. Et Allah a gardé le soleil. C'est Yusha Abin Nun. Vous comprenez?
Donc ce Yusha là, maintenant lorsque les enfants d'Israël étaient fatigués de l'errance, ils ont sollicité Dieu implore Allah pour leur désigner un commandant pour aller combattre les gens là pour aller donc s'atterrir, s'installer au Moyen-Orient, plus précisément dans le territoire palestinien aujourd'hui et une partie de là où il siégeait aujourd'hui. Alam tara, c'est ça, Allah Soudan nous a dit dans la sourate Baqara, ce verset là donc 246e jusqu'à donc 251e verset. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu lin-nabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla taqatulu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukrina min diyarina wa abna'ina. Jusqu'à ce qu'Allah Soudan nous a parlé wa hazamuhum bi idhnillah wa qatala Daoud Jaluta. Donc ici et dans cette armée qui a mené le combat pour la reconquête de ce territoire palestinien de Jérusalem aujourd'hui et l'Israël, il y a le prophète Daoud et c'est lui-même qui a tué Goliath, Jalut. Et ça là même on a monté le film David et Goliath. Vous comprenez? Donc, et cette histoire, cette bataille a eu lieu l'an 104 avant Jésus-Christ. L'an 104 avant Jésus-Christ, que Daoud et avec l'oncle Talut, dans son armée avec Daoud, ils ont reconquéri. Donc, comment dirais-je, ce territoire. Donc, c'est pour nous dire que c'est une histoire qui remonte d'une vieille date, c'est pas aujourd'hui. Voilà comment, maintenant, et de temps à autre, c'est de l'an 300 aussi, on a eu des grandes batailles. Chaque fois, c'est comme ça. Et les autochtones de ce territoire-là, le Moyen-Orient, donc, ou en particulier Palestine, donc ce sont les Ascalaniens et les Canaaniens. Et les Canaaniens. Donc, maintenant, tantôt, voilà ce qui s'est passé. Et jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a eu comment, au temps de Omar bin Khattab, à l'an 15 de son règne. L'an 15 de son règne, donc Omar bin Khattab, il a repris donc le contrôle de Quds, ce territoire. Eux maintenant, après des batailles en bataille, à l'an 1188, Salahuddin Ayyubi, avec les croisades, il a libéré donc ce territoire. Voyez-vous comment donc l'histoire remontait. Et maintenant, là où le problème actuel va commencer proprement dit, c'est-à-dire l'installation des Juifs sur le territoire maintenant, réinstallation des Juifs sur le territoire donc palestinien et autres, au Moyen-Orient en général, c'est en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945, après que Hitler a fait son génocide juif, lorsqu'il a pris plus de 6 millions de Juifs, comme donc le bilan de la Deuxième Guerre mondiale a précisé. Maintenant, les résidus des Juifs, l'ONU les a pris pour les déverser sur le territoire palestinien. Et ils ont dit qu'ils ont une terre promise, qu'ils ont refusé d'y aller au temps de Moïse. Et maintenant, il fallait donc au temps de Yusha, à l'an 104 avant Jésus-Christ, pour qu'ils reviennent. Eux, ils sont pourchassés de temps à autre avec les combats menés avec, comment dirais-je, l'Empire babylonien, jusqu'au l'Empire néo-babylonien, jusqu'à l'an 538 où Cyrus le Grand a mis fin à la déportation donc des Juifs. Vous comprenez? Donc voilà historique donc de l'installation donc des Juifs. Maintenant c'est dès 1948 là qu'ils ont commencé à faire des confrontations avec le peuple donc du Moyen-Orient, en particulier l'armée arabe, la coalition des armées arabes, donc d'où la bataille donc de Kippour. Donc 54-67, bataille de Sujour. Donc tous ces combats-là de l'histoire qui évoluent jusqu'à aujourd'hui. Donc le combat continue donc en Palestine. C'est maintenant, c'est parce que donc en Iran maintenant donc ça a déclenché. C'est pourquoi maintenant on a oublié pour le Palestine. Mais les batailles continuent jusqu'à présent en Palestine. L'impérialisme israélien continue sur la Palestine jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est cette tension qui a, comment dirais-je, masqué l'autre, mais il continue à occuper le territoire donc palestinien. Tout ça là, pour quel objectif? L'objectif des enfants d'Israël, comme ils ont affiché, comme Allah nous a montré dans le Coran, ils veulent conquérir le monde, ils veulent dominer le monde. Tout le monde doit être esclave des Juifs. Comme ils ont inspiré cela dans leur deuxième source après la Torah, l'Ancien Testament, ils ont ce qu'on appelle Talmud. Et après Talmud, c'est l'interprétation de la Torah. C'est ça Talmud. Et ils ont le protocole des sages de Sion. Les sionismes là, le protocole des sages de Sion. Et ce sont les trois sources fondamentales sur lesquelles les enfants, les Juifs en particulier, ils se battent pour la reconquête des grands Israël qui englobe la grande majorité du Moyen-Orient ou bien même le Moyen-Orient en général. Parce que même récemment, vous avez vu le Premier ministre, donc, le ministre des Affaires étrangères donc, américaine, il a parlé que même l'Arabie Saoudite fait partie, donc une partie intégrante du grand Israël. Donc, ce grand Israël-là, une fois conquis, c'est en ce moment que le chef juif, leur Messie, va s'apparaître pour dominer le monde. Voyez-vous leur agenda? C'est pourquoi le Moyen-Orient ne sera jamais stable. Ne sera jamais stable. Tant qu'il y a les Juifs. Maintenant, le deuxième Satan, l'Amérique. Pourquoi les États-Unis, donc, toujours, ils sont avec les Israéliens ou bien les Juifs dans leur combat? Donc, Al-Munafikouna ba'adhum, Aulia ou Ba'ad, c'est ça que Allah nous a dit dans la sourate 9. Ce sont les alliés depuis toujours et jusqu'au jour de la résurrection, c'est des alliés. C'est les intérêts qui les séparent parfois, et c'est les intérêts toujours aussi, ce sont des alliés. C'est quand l'un n'est pas d'accord avec l'autre dans certaines circonstances, ils vont se diviser. Mais toujours, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est au moment où ils voient qu'Agnès Bankura, en ce moment donc, il va afficher son mécontentement face à son allié. Et maintenant, s'il s'agit maintenant de combattre un autre ennemi, ils vont se réunir le plus vite possible. Et pourquoi maintenant donc les États-Unis, toujours derrière, comment dirais-je, les enfants d'Israël? pour la preuve toujours idéologique. Ici, on avance les preuves idéologiques d'abord, avant les preuves politico-commerciales ou économiques. Donc, la preuve idéologique qui lie les États-Unis avec les Juifs ou bien l'Israël, c'est que en États-Unis, donc, c'est les chrétiens. Et les chrétiens, ceux qui produisent, c'est les protestants. Et pour les chrétiens protestants, leur Messie va revenir au moment où le Messie juif s'est installé. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'arrivée ou l'apparition de leur Messie ou le retour de leur Messie est conditionné à l'apparition des Messies juifs. D'où ils sont obligés de les emboîter, de les soutenir pour conquérir le grand Israël, pour que le Messie juif s'installe, pour que, à leur tour, leur Messie s'affiche. Ou c'est pareil. On comprend l'idéologie. Maintenant, le troisième bandit, ou bien le troisième donc, agenda, qui est donc l'agenda iranien, eux aussi, leur agenda, c'est reconquérir le Grand Moyen-Orient afin de renaître l'Empire perse qui a été combattu par Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, à l'an 644. Vous comprenez? C'est l'Empire perse dont l'Empire perse, donc le dernier empire perse, donc c'est Omar ibn Khattab, le deuxième calife. C'est pendant son règne, l'an 22-23 Hégire, qui correspond à l'an 44-45, donc de l'ère grégorienne, qui a eu lieu la chute et le déclin de l'empire perse par l'armée musulmane. Et maintenant, ils veulent le ressusciter. Comment? C'est au moment où ils auront le contrôle du Moyen-Orient. Voilà les trois agendas idéologiques, couplés à l'agenda économique. Dans le Moyen-Orient, la production pétrolière du monde, combien pour cent se trouve dans le Moyen-Orient? Le canal de Suez, c'est un atout économique. Le détroit de Hormuz, dont aujourd'hui c'est une menace, maintenant le baril de pétrole a doublé, $200. Et comment dirais-je, le gaz a multiplié aussi, parce que Qatar a fermé. Vous comprenez? Donc, et maintenant, il n'y a pas maintenant donc le passage du pétrole à travers le détroit de Hormuz, d'où maintenant la pénurie va commencer. Voyez-vous donc l'impact direct sur l'économie mondiale lié au Moyen-Orient? Raison pour laquelle les États-Unis, elles comptent beaucoup sur ce conflit et sur ces enjeux, parce que regardez ces bases militaires dans tous les pays du Moyen-Orient, dont aujourd'hui l'Iran a attaqué. C'est pourquoi donc elle a l'intérêt de combattre l'Iran, c'est une menace pour elle, parce que s'il n'y a pas l'Iran, déjà les autres, c'est fini, déjà elle a des bases militaires. C'est elle qui assure leur sécurité. Déjà, c'est sa vache laitière. Facilement, elle va se ravitailler. Et avec ça, elle peut supporter la diversité en face de la Chine et de la Russie. Si elle a une vache laitière au Moyen-Orient, elle n'a pas de problème. Voilà donc, c'est un intérêt. Et l'Israël, c'est la même chose, l'économie. L'Iran, c'est la même chose. Donc voilà les deux intérêts. C'est l'idéologique au premier bord et maintenant économique au second. C'est clair? Voilà le secret donc de ces batailles. Et l'Amérique connaît bien l'Iran. C'est les trois-là qui se sont rencontrés. Vous comprenez? Chacun connaît l'autre, on se connaît. C'est les trois qui ont l'agenda le plus satanique du monde. Et Dieu les a mis en confrontation. C'est ça. Parce que les États-Unis étaient alliés de l'Iran, ou l'Iran était allié des États-Unis, avec l'Iran, États-Unis a détruit l'Afghanistan dès les premières heures de conflit, les années 70, et même les combats qu'ils ont continué de 2001 jusqu'à 2021, les 20 ans que les États-Unis ont fait donc en Afghanistan, jusqu'à ce qu'ils ont constaté qu'ils ne peuvent pas, ils étaient toujours alliés de l'Iran. L'Iran a été allié des États-Unis pour combattre l'Irak. Avant même les années 2000, parce que de 2023 à 2011, ça c'est la phase finale du déclin de l'Irak. 2023, donc, lorsque George W. Bush à 23h, il a déclenché la bataille en 2003. Et en 2006, ils ont pendu donc Saddam Hussein. Et c'est à partir de ça, donc, on a créé, Abou Bakr al-Baghdadi avec son État islamique en Irak d'abord, avant qu'il s'étale sur les Syries, et avec son allié, donc Jalouani, donc qui est maintenant en Syrie, qui était donc un terroriste maintenant, il est lavé, donc il est devenu un président. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, l'Iran était à applaudir lorsque, à la chute du Saddam, il était allié. L'Iran était allié des États-Unis en Syrie pour la chute et pour persécuter le peuple syrien sous la domination donc de Bachar Assad jusqu'à la chute, aussi donc lorsqu'ils ont lâché. Aussi à Yémen, l'Iran soutient, c'est elle, avec elle on a détruit Yémen et jusqu'à présent donc avec les Houthis. Vous comprenez? Donc, les États-Unis sont conscients de ça. Maintenant, c'est le tour de l'Iran qui est venu. Puisque donc on sait que donc maintenant, puisque tu nous as aidé à s'en débarrasser de des autres ennemis, maintenant, au moins, il n'y aura aucun ennemi qui reste que l'Iran devant les États-Unis et l'Israël. C'est normal maintenant, il faut l'éviter. C'est comme ça. Même si ce n'est pas par cette guerre, c'est pourquoi la guerre de 12 jours qui s'est passée le mois passé, parce qu'à chaque fois, ils vont tenter pour finir avec elle. Sauf si ils constatent que ça c'est pas, il n'est pas encore temps. Ils vont négocier, ils vont se retirer, on va faire le cessez-le-feu. Même ça là, ils ont commencé à demander le cessez-le-feu, c'est l'Iran qui refuse. Donc, c'est comme ça. Et les autres pays du Moyen-Orient, les Arabes musulmans, qui dorment pour l'éternel, donner la place à des bases en pensant que vous serez protégés. Et aujourd'hui, les frappes que l'Iran mène dans les autres pays du Moyen-Orient, l'États-Unis ne peut pas les couvrir, ne peut pas les couvrir. Et c'est comme ça, c'est sa politique de création, d'installation des bases dans le monde entier pour que maintenant, ils vont régler leur conflit avec l'Iran. Ça va pas continuer. Ils vont régler, ils vont trouver donc une attente, un terrain d'attente. Mais le dégât et le chaos que l'Iran a semé dans les autres pays du Moyen-Orient, même le réparer, c'est autre chose. Et il y a la rancune qui va continuer. Et ils ont eu le gain de cause, ils ont fait confronter les musulmans pour les affaiblir. C'est clair? Donc c'est comme ça. Et toujours, ils vont vous attaquer et ils vont chercher une autre voie pour renouer leurs relations. Et ils vont vous laisser en conflit avec vos voisins. C'est la même chose ici au Niger. Les États-Unis, ils sont de retour, non? Mais est-ce que nos relations avec le Bénin se sont établies? Se sont rétablies? Est-ce que nos relations avec le Nigeria, comme d'habitude, se sont rétablies? Est-ce que les relations AES-CEDEAO se sont rétablies? Est-ce que vous comprenez? Mais, malgré tout, les États-Unis sont revenus. Mais avec nos voisins, non. Les tensions continuent. Et les bases militaires étrangères sont là, de les voisins. Ou bien, Côte d'Ivoire, on a un ennemi déclaré de l'AES en général, Benin, CEDEAO en général, etc. On est entouré. Mais ça n'empêche que les États-Unis, elle a des relations avec tous les trois pays de l'AES. Mais elle les a laissés avec des tensions avec leurs voisins, à cause de leurs bases militaires. Ou bien c'est pas ça? C'est toujours leur politique comme ça. Ils ne visent que leurs intérêts. Koukache Kankou, ça vous regarde, mais elle trouve ses intérêts, c'est fini. Elle va sortir. Et regardez maintenant, les pays occidentaux sont en train de rapatrier leurs compatriotes, donc à la commande de l'Iran, du Moyen-Orient en général. On les rapatrie. Et en fin de compte, qui sera victime? C'est-à-dire, puisque maintenant c'est une menace, il y a de l'insécurité, ils vont rapatrier les leurs et ils vont vous laisser, vous entretuer. Ça a été toujours ainsi et ça va continuer. Et malheureusement, on ne prend pas conscience de ces gens. Donc voilà. C'est un agenda idéologique d'abord, avant qu'il soit politico-économique. Donc, l'Iran a son messie, les Israéliens, Israël a son messie, les États-Unis ont leur messie, et chacun, il combat pour l'avenir de ce messie. Et les musulmans ont leur messie. Et ils dormaient. Parce que si ce n'est pas Allah qui fait la promotion de sa religion, l'islam allait donc s'arrêter et étouffer depuis. Si on a laissé l'islam en nous, hein, c'est autre chose. C'est pourquoi c'est Allah qui fait son combat. Voilà, mais les trois là, voilà, chacun, ils se combattent afin, comment dirais-je, de concrétiser donc ce vieux rêve. Afin de concrétiser ce vieux rêve. Et c'est pourquoi les États-Unis ont justifié leur présence au Nigeria derrière le christianisme. Les chrétiens sont persécutés, donc il faut les défendre. C'est faux. C'est des prétextes. C'est trouver un moyen de s'installer. Il ne peut pas combattre le Niger et autres de là-bas, mais il faut créer des bases militaires à côté. Et on vient, on vous dit, on renoue les relations diplomatiques. On vous fait le sourire du lion. Quand elle lui sourit, et vous savez qu'il ne va pas vous faire cadeau. Hein? Ou bien, c'est le sourire du lion. Vaut mieux que le lion rugisse que de te faire sourire. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, l'hypocrisie de la diplomatie étrangère dont, très malheureusement, nous, les Africains en général, on n'arrive pas à comprendre où les soi-disant nos intellectuels, donc ils refusent d'expliquer à la grande majorité donc, de la population afin d'être consciente. Parce que si certains soi-disant intellectuels, ils n'arrivent pas à comprendre cela, ou bien même c'est eux qui combattent tout celui qui cherche à expliquer aux autres ce genre de danger, parce que lui, il est un politologue, il est gardien de la démocratie, il est ceci, il est cela, démocratiquement parlant. Mais qu'est-ce que la démocratie t'a amené, toi, en tant qu'intellectuel africain? Jusqu'à ce que tu défends la démocratie. Hein? Même eux, les démocrates là-bas, voyez-vous, ils sont dans leur folie. L'Amérique qui chante la démocratie, voilà, c'est le comportement qu'elle est en train de faire maintenant, c'est de la démocratie. Enlever un président de sa présidence, aller l'emprisonner, un président démocratiquement élu, la puissance démocratique, elle va venir la lever. Parce qu'elle ne répond pas à ses... C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, donc, dans le monde, donc, c'est ça la politique. Si les gens donc se réveillent, n'ont qu'à se réveiller, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà la psychologie judéo-chrétienne. C'est pourquoi Allah il t'a résumé. Walan tarda anka al-yahudu wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Jamais les deux là, les juifs ou les chrétiens, ils ne vont pas croire à toi tant que tu ne suis pas leur chemin. C'est en ce moment-là que vous allez quoi. Mais tant que tu es au côté opposé, toujours on va créer des prétextes pour te combattre. On va créer des prétextes pour te combattre. Voilà, donc, à résumer ce conflit qui est là, nous implorons Allah qu'il fasse affaiblir ces trois forces du mal pour faire rayonner donc, la justice et sa religion, pour que la sécurité règne dans le Moyen-Orient, qui est le centre monde, qui est le lieu de rassemblement le jour de la résurrection, qui est la terre des 99% ou bien même les 100% des prophètes et messagers, dès leur tombeau se trouve là-bas. Et c'est de là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ascension et son voyage céleste. Allah les a rassemblés, tous les prophètes et messagers. C'est au Moyen-Orient qu'aura lieu, que la dernière capitale islamique siégera à l'arrivée de Isa alayhi salam et avant lui, Mahdi, qui viendra dans les 10 grands signes de la résurrection. Et c'est là-bas, la bataille finale et la victoire finale sera éclatante. Donc le prophète l'a dit, vous allez combattre donc les Juifs jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière les montagnes, derrière toutes choses, et les choses vont les dénoncer, à l'exception d'un seul arbre qu'on appelle Garq ad-Tiraria, donc qui ne va pas dénoncer donc les Juifs. Et c'est pourquoi ils sont en train de le planter donc en gogo, donc pour qu'il soit à l'abri. Vous comprenez? Donc ça ne va pas, le conflit dans le Moyen-Orient, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va finir. Il a habitué, c'est le centre-monde, c'est le carrefour stratégique sur le plan économique, spirituel, sur le plan stratégique, donc il se converge. Tout ce qu'on veut dans le monde, on le retrouve là-bas. Et c'est pourquoi la bataille ne va pas finir au Moyen-Orient. Il ne va pas finir jusqu'à la dernière victoire qu'Allah va donner donc, à sa religion. Mais les trois là, les Juifs, l'Israël, l'Amérique, l'Iran, les trois, chacun a son agenda idéologique avant l'agenda politico-économique. Donc, et c'est dans le Saint-Coran et les textes donc religieux que tu peux comprendre selon l'évolution du peuple des enfants d'Israël et selon la projection de l'avenir qu'Allah et son prophète nous ont donné de ce qui va se passer dans cet endroit. Si tu n'as pas ces données, toute analyse que tu vas mener, tu vas voir que ça reste encore. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.